Bonsoir. L'Assemblée nationale interdit au gouvernement d'amorcer toute négociation avec des forces négatives en vue de procéder à leur intégration, brassage ou mixage. La recommandation des députés votée mardi 8 novembre interdit toute négociation tendant à intégrer au sein des FRDC, de la police ou tout autre service de sécurité, des éléments issus des groupes armés qui se sont livrés à l'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC ou qui se sont rendus coupables de violations massives des droits de l'homme au préjudice des populations congolaises. Cette résolution intervient alors que le gouvernement de la RDC s'apprête à participer la semaine prochaine dans la capitale kényane pour parler de Nairobi avec les groupes armés congolais pour mettre fin au cycle des violences dans la partie est de la RDC. Que pensez-vous de cette résolution de l'Assemblée nationale? Pourra-t-elle aider la RDC à avoir une armée républicaine et bien structurée? Sur le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 10 novembre 2022, participe au débat professeur Jacques Njoli, professeur de droit constitutionnel, il est député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Professeur Jacques Njoli, bonsoir. Le professeur Jacques Njoli est parti. La réalisation va essayer de le rappeler. Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs de Radio Capi.
Et le professeur Casimir Ngoubi, politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Professeur Casimir Ngoubi, bonsoir.
Bonsoir madame Kelly, bonsoir aux auditeurs de la Radio Capi, la radio de la paix. Et bonsoir à tous les débatteurs.
À Kisangani, dans la province de la Tchopo, vous nous suivez sous la 98.4. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine. Radio
Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, l'Assemblée nationale a voté mardi une résolution interdisant au gouvernement d'amorcer toute négociation avec des forces négatives en vue de procéder à leur intégration, brassage ou mixage. Cette résolution intervient alors que la RDC s'apprête à participer au pourparlers de Nairobi qui s'ouvre la semaine prochaine. Par le vote de cette résolution, l'Assemblée nationale dénonce l'agression rwandaise et classe le M23 comme mouvement terroriste qui ne mérite pas des négociations avec la RDC. On écoute le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi, au micro de Michel Kifinda.
Considérant l'agression imposée à la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise sous les labels du groupe terroriste M23, l'Assemblée nationale interdit au gouvernement de la République de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage et ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des forces armées, de la police nationale ou de tout autre service de sécurité des éléments ici des groupes armés qui se sont livrés à l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, qui se sont rendus coupables de violations massives des droits de l'homme au préjudice des populations congolaises qui sont soutenues par des armées étrangères et autres opérateurs économiques mafieux.
Professeur Jacques Joly, vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, madame Kelly Couté.
Je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel et député national, vice-président de la commission des forces et sécurité à l'Assemblée nationale. Le mardi, l'Assemblée a voté une résolution interdisant au gouvernement d'amorcer toute négociation avec des forces négatives en vue de procéder à leur intégration, brassage ou mixage. S'agit-il de toutes les forces négatives ou uniquement du M23?
Madame, il s'agit de toutes les forces négatives et qui, n'est-ce pas, tombent, n'est-ce pas, sous le champ de cette recommandation, qui se sont donc livrés au terrorisme, à des actes ignobles contre le peuple congolais, ceux qui ont pris les armes contre la nation et se sont particulièrement singularisée dans l'exploitation des ressources naturelles nationales au profit de puissances étrangères, ce qui sont livrées à des actes de violation massive des droits de l'homme, ou ce qui sont des suppôts, en fait, des agents des armées étrangères qui se livrent donc à des actes de déstabilisation ou d'influence au profit de ces armées. Il ne s'agit pas d'une démarche purement congolaise. Dans toutes les opérations de réconciliation, il y a des cas qui sont totalement exclus de toute opération, surtout d'intégration au sein de l'armée. Ce n'est pas possible. On appelle ça dans toutes les stratégies des négociations, les actes de vetting. Donc, ceux qui ont incarné, ceux qui ont particulièrement visé ces actes-là, ne peuvent pas intégrer une armée nationale.
Par ce vote, l'Assemblée nationale a voulu dénoncer l'agression rwandaise et a classé le M23 comme un mouvement terroriste qui ne mérite pas des négociations avec la RDC, le gouvernement congolais. Pourquoi seulement le M23 alors qu'il y a plusieurs groupes armés qui sème désolation dans la partie orientale de la RDC?
Il faut faire un distinguo. Le processus de Nairobi est engagé depuis plusieurs mois, et le cas du M23, qui est en fait une couverture de supplétif de l'armée rwandaise, qui a été défait, vous vous rappelez, en 2013, et qui a été réveillé pour des besoins de cause par le Rwanda, qui veut absolument avoir à déstabiliser la République démocratique du Congo, apaiser ou à empêcher que notre nation puisse se lever. Donc les M23 ont été donc revitalisés par le Rwanda, et qui a mis ses hommes pour venir, et ça c'est connu de toutes les structures internationales, y compris l'Union africaine, mais surtout les Nations unies dans leur rapport. Nous avons demandé, en ce qui concerne ces mouvements-là, que ce n'était pas normal, alors que nous étions sur la table de négociation, le M23 a commencé ses attaques sur Tianzhou, Bunagana. Comment peut-on discuter avec un groupe qui est en train de se livrer à des actes de violence, à des opérations militaires, et venir sous la table? Ce n'est pas possible, madame. Donc ça, c'est le cas particulier. Donc si le M23 veut ou avait voulu les négociations ou leurs parrains, ils doivent d'abord quitter, c'est ce qu'on leur avait demandé, de quitter les espaces qu'ils occupent et intégrer la démarche irénique, c'est-à-dire de paix. Vous ne pouvez pas commencer des actes, des opérations militaires et en même temps demander de venir sur la table de négociation. C'est du chantage.
Cette résolution intervient alors que la RDC s'apprête à participer au pourparlers de Nairobi qui s'ouvre la semaine prochaine. Est-ce que ça veut dire que, puisque à l'Assemblée nationale, vous interdisez au gouvernement d'amorcer toute négociation avec les forces négatives, est-ce que ça veut dire que le gouvernement ne devrait pas y aller?
Non, la résolution de l'Assemblée nationale, c'est une résolution qui vise à ce que notre gouvernement, qui est un gouvernement qui vit dans les concerts des États, peut prendre, dans les cadres de l'East African Community, être invité à participer à un dialogue. Nous n'avons jamais refusé, sauf de dialogue genre venir imposer au gouvernement que les gens doivent venir occuper de postes et autres. Non. Nous sommes en négociation, il y a plusieurs groupes du sud de Kivu, de l'Ituri et du nord Kivu qui ont été invités avant les opérations de la force est-africaine, parce qu'il faut toujours ce qu'on appelle le volet politique et diplomatique d'une opération militaire. On les a invités et toutes les autres forces, notamment de l'Ituri, se sont mises en position de venir, n'est-ce pas, s'asseoir sur la table de négociation. Nous ne pouvons pas imaginer la République démocratique du Congo en train de discuter avec les ADF qui sont des terroristes, n'est-ce pas, au service du Daesh. Et lorsque l'M23 se met dans cette position d'une violence aveugle, des opérations militaires au service d'une armée étrangère, nous ne pouvons pas discuter avec eux. Si l'M23 veut ou ses parrains veulent qu'ils puissent venir sur la table, ils doivent d'abord quitter tous les territoires qui s'occupent de Rutshuru et s'engager sous la voie militaire. On ne les a jamais refusés, on les a toujours écoutés. Ça, c'est le premier point en ce qui concerne les négociations. Mais dans ces négociations, si jamais ils quittaient le territoire qu'ils occupent, ben ils doivent savoir qu'il est exclu qu'ils soient intégrés dans l'armée. Il y a un processus DDR pour ceux qui, n'est-ce pas, obéissent aux critères ou qui entrent dans ces critères, ben ils seront pris en charge par le processus DDR. Mais en tout état de cause, ceux qui se sont livrés au pillage de nos ressources ne vont pas intégrer l'armée sous forme de mixage ou de brassage. Ces opérations-là, le brassage d'hier, nous a mis dans notre armée des agents extérieurs qui nous fragilisent et qui trahissent ce pays à tout moment. Et surtout des militaires non formés, illégaux et déloyaux.
C'était donc une mauvaise expérience. C'était donc une mauvaise expérience, professeur.
Une très mauvaise expérience. Le brassage, vous pouvez imaginer que des gens sont venus avec des brigades, on les a intégrés et ils ont fait 45 jours pour certains. Ils ont eu des grades de colonel sans avoir été des lieutenants ou autres et des généraux. Et bien plus, malgré cette force de la nation, eh bien, c'était des Mutebusi, c'était des Kunda, c'était les Tanganda et d'autres encore. Disais-je, les Makenga. C'est-à-dire qu'ils entrent dans l'armée, ils refusent de quitter leur montagne, ils refusent toute mutation et à chaque fois, leurs brigades qui ne sont jamais mixées, qui restent homogènes d'une même tribu, hein, ils quittent, ils font défection à l'appel de leur maître de Kigali ou d'ailleurs. Et ça, c'est une expérience que nous avons vécue. Les Mutebusi sont là, les Kunda, tout ce monde-là ont été intégrés au sein de l'armée. Et on voit les choses. Ça, c'est ce qui concerne le brassage qui a eu lieu dans le cadre de l'accord de Sun City et qui a été conduite, n'est-ce pas, par les services militaires d'intégration. Donc, c'était un échec.
Mais cela avait quand même permis à mettre fin à plusieurs armées au pays.
Justement, au lieu d'avoir une armée, et nous avons eu maintenant une armée multiforme, où des gens viennent dans l'armée avec parfois et surtout des infiltrés. Comment quelqu'un qui a été militaire d'armée patriotique rwandaise ou d'une autre armée peut venir dans notre armée? C'est ce qui fait quand on parle de la faiblesse des forces armées, c'est essentiellement des actes de trahison de ces agents-là qui sont venus dans les brigades. Merci. Et ces gens-là ne veulent pas quitter leur colline. Et en ce qui concerne le mixage, c'est la même chose. Nous avons eu des brigades dirigées par Kunda et les autres, et qui sont entrés, qui ont refusé de quitter les Kivu ou les Nord-Kivu, qui restent, et chaque fois, ils créent de fausses rébellions. Regardez les profils d'un Tanganda, qui va devant la Cour pénale internationale affirmer qu'il est rwandais. Et ce monsieur a porté le grade de général dans notre armée. Les gardiens, monsieur comme Kabarebe. Il a même été jusqu'à devenir chef d'état-major général de notre armée. Après, il devient chef d'état-major de l'armée rwandaise et il est aujourd'hui conseiller en matière de sécurité. Mais ils sont nombreux. Donc, il est hors de question pour le Parlement que nous puissions encore nous livrer à ces actes de brassage ou de mixage qui ne sont d'ailleurs pas acceptés par les processus dits de démobilisation et de désarmement.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Que pensez-vous, professeur, de cette résolution de l'Assemblée nationale?
Merci pour la question. Je pense qu'il est impératif de pouvoir revenir un peu en arrière pour bien situer le contexte. C'est que tous les différents processus qui ont eu lieu ont comme origine, en fait, les accords de Sun City, où, effectivement, il y avait plusieurs groupes armés, notamment le RCD, RCD-KML, le MLC, le gouvernement, mais aussi il y avait une grande composante qui était composée de tous les groupements Maï-Maï qui étaient éparpillés un petit peu partout au sein de l'espace est de la RDC. Alors, pour essayer de réunir l'État, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à la sortie de la crise à ce moment-là? On apprenait justement à ce qu'il puisse y avoir intégration de tous ces groupes dans une nouvelle armée. Il y avait deux possibilités. Ou bien ces gens intégrés dans l'armée, ou bien ces gens pouvaient aller réintégrer dans la société civile. Alors l'option que la plupart de ces groupes, de tout le monde ont privilégié, c'est l'aspect armé, pour la bonne et simple raison que c'est dans l'armée qu'ils avaient des perspectives, entre guillemets, intéressantes du point de vue financier, grade, etc. Mais alors tout le volet civil, malheureusement tout le volet civil qui est aussi un volet important en termes de réinsertion des différents groupes armés, malheureusement ce volet civil n'a pas eu le même impact que la dimension armée. Alors, du fait qu'il n'y a pas eu d'impact, du fait qu'il y a eu des problèmes de financement, il y a eu des problèmes de suivi, ce volet civil n'a pas attiré beaucoup de monde, ce qui fait que tout le monde veut chaque fois aller du côté de l'armée. Alors maintenant ici, revenons maintenant dans le contexte actuel. Pour l'instant, la RDC est active dans deux processus, le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Dans le processus de Nairobi, ça concerne toute la question liée aux groupes armés internes, que ce soit tous les Maïmaï ainsi que d'autres groupes. Dans les rapports des Nations Unies, on parle qu'il y a plus ou moins 126 groupes armés. On n'a pas encore eu la liste de tous ceux qui vont participer aux discussions de Nairobi. Et alors maintenant, avec la résolution, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette résolution demande effectivement au gouvernement de ne pas intégrer donc tous ces groupes armés qui vont participer à ces dialogues. On ferme la porte donc de l'armée, on ferme la porte à la solution militaire et on ouvre uniquement la porte de la solution civile. C'est-à-dire que les 126 groupes armés, quand vous lisez ce que l'Assemblée nationale a adopté comme condition, uniquement par exemple la question des pillages des ressources naturelles, vous devez savoir qu'aucun groupe armé actif dans l'est du Congo ne survit que grâce justement à l'exploitation minière. Et donc, clairement, tous ces 126 groupes armés minimum doivent tous passer par le processus d'intégration civile. Alors, quand on dit intégration civile, est-ce qu'on a les moyens au niveau du pays de pouvoir avoir tous les outils pour pouvoir intégrer ces différents groupes armés qui sont éparpillés? Cela est vraiment toute la question. Alors, si on revient maintenant, rajouter la dimension maintenant 1-23, là aussi, ça pose aussi quelques questions du fait que le 1-23 a été déclaré groupe terroriste. Quand on dit groupe terroriste, il faut maintenant se rendre compte, est-ce que le 1-23 va participer aussi dans ce processus de Nairobi ou ne va pas participer à ce processus? En lisant le porte-parole du chef de l'État, qui a fait une communication il n'y a pas longtemps, qui dit que le 1-23, bien qu'étant groupe terroriste, pourra participer donc à ces discussions. Alors si le 1-23 participe à ces groupes, à ces discussions, et donc cela veut dire que la dimension armée, elle est bloquée, alors il ne restera que comme alternative la dimension de l'intégration civile, c'est-à-dire faire le tri entre d'une part les Congolais qui sont au sein de ce M23, mais aussi faire le tri par rapport à tous les mouvements et tous les groupes, ainsi que les militaires étrangers, que nous savons tous, ils sont nombreux, parce qu'il n'y a pas que des militaires rwandais, mais il y a aussi des militaires ougandais, il y a aussi des troupes et des militaires, des mercenaires qui ont été recrutés un peu partout. Ils font partie, au fait, de ce groupe, et de ce fait-là, il faudra arriver à faire tout ce tri. La RDC aura-t-elle maintenant le moyen de pouvoir convaincre tous les autres groupes armés que la dimension armée est interdite et qu'on n'a que la dimension civile? Là, ce sera vraiment une autre paire de manches, d'autant plus que la plupart des officiers actuels proviennent justement de ce processus de brassage, mixage, intégration depuis 2002-2003, après les accords donc de Sun City.
La question que beaucoup de gens se posent aussi, professeur, est-ce que cette recommandation de l'Assemblée nationale ne va-t-elle pas accentuer la crise et pousser certains groupes armés à retourner dans la brousse, parce qu'ils espéraient intégrer les FRDC après les pourparlers de Nairobi?
Oui, c'est une recommandation. C'est une recommandation vis-à-vis du gouvernement. C'est le gouvernement, en fait, qui va, entre guillemets, essayer d'appliquer ou de ne pas appliquer cette recommandation de l'armée. Comme je vous l'ai expliqué, beaucoup de groupes armés aiment beaucoup ces processus d'intégration de mixage parce que tout simplement, c'est le côté le plus rentable. Le plus rentable dans quel sens? C'est-à-dire, lorsque vous êtes un petit chef Maïmaï, je ne sais pas, d'un coin X, lorsque vous devez intégrer dans l'armée, vous allez exiger d'être minimum colonel, ou bien capitaine, ou major, sans avoir fait l'armée. Et ce qui a comme conséquence, c'est qu'on intègre n'importe qui dans l'armée, nous n'avons pas d'armée, on n'a plus maintenant que des espèces de groupuscules, de groupes qui ont difficile à pouvoir s'intégrer dans un même corps. Or, c'est cette dimension-là qui attire ces groupes armés. Et alors, si on supprime ces groupes armés, là, effectivement, le gouvernement congolais va avoir beaucoup de mal à essayer de convaincre de pouvoir aller vers le volet civil, puisqu'il y a encore d'autres expériences qu'on a déjà eues avec le volet civil, notamment tous les processus de DDR, qui ont toujours eu du mal à pouvoir produire des résultats convaincants, puisque lorsqu'il y a ceux qui sont intéressés par le processus civil, ils y vont, et puis après quelques mois, il y a des difficultés de nourriture, des difficultés logistiques. On constate quoi? Ceux qui étaient dans la dimension civile quittent la dimension civile pour retourner dans les groupes armés et espérer aller du côté de l'armée.
Et donc cette recommandation ne résout pas le problème.
S'il vous plaît?
Cette recommandation ne résout pas le problème.
Bon, cette recommandation peut résoudre le problème à condition que le gouvernement congolais mette le paquet, si je peux me permettre, sur la dimension civile et que cette dimension civile produise des résultats. C'est-à-dire qu'on voit véritablement que les gens qui ont quitté les groupes armés se sont réinsérés dans la société. Et bien sûr, il y a toute une série de procédures, un processus quand même qui est important par rapport à leur intégration. Ça ne veut pas dire uniquement quitter les groupes armés et réinsérer dans la société civile. Il y a aussi toute la dimension liée à la justice qui doit être rendue par rapport aux violations, par rapport aux populations qui ont été victimes. Il y a toute cette dimension-là. Et je vois de plus en plus qu'on commence à parler de la justice transitionnelle qui pourrait aussi être un appui dans le cadre justement du renforcement de ces dispositifs civils. Or, dans l'état actuel des choses, malheureusement, on n'en est pas encore là.
Professeur Casimir Ngoubi, politologue et expert dans le domaine des violences politiques et des groupes armés. Professeur, quelle lecture vous faites de cette recommandation de l'Assemblée nationale qui interdit au gouvernement toute négociation avec les forces négatives en vue de procéder à leur intégration, brassage ou mixage?
Merci beaucoup, Madame Kelly, d'avoir pensé à ma modeste personne. La question d'intégration, brassage ou mixage est au cœur des conflits armés en République démocratique du Congo. Je l'ai toujours considéré comme une question d'infiltration des institutions du pays pour l'affaiblir davantage et permettre aux prédateurs de réaliser leur mission de pillage des ressources, de contrôle géopolitique et, par ricochet, de balkanisation. La question de la guerre du M23 aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? La guerre actuelle du M23 a principalement cette motivation, c'est-à-dire l'intégration qui permet à Kagame ou à Museveni, sous la bénédiction des grandes puissances, d'assurer leur contrôle sur la RDC. Jamais, Madame Kelly, et alors jamais, un accord de Nairobi ou n'importe quelle capitale du monde ne peut aboutir à la fin du cycle de violence dans la partie est du pays. Je considère aussi que les principaux obstacles de la formation d'une armée républicaine bien structurée sont l'intégration, le brassage ou le mixage, du fait que notre armée est infiltrée par ceux qui, par la suite, la trahissent. Je considère donc que l'interdiction de la négociation, n'est-ce pas, est républicaine. Cette interdiction est aussi responsable, patriotique et souveraine. Et je félicite pour cela notre Assemblée nationale. L'accord global et inclusif, par exemple, signé en décembre 2002, puis dilué dans la Constitution du 18 février 2006, laisse encore, Madame Kelly, les conséquences d'intégration, de brassage ou de mixage. Certains chefs militaires gardent encore leur allégeance à certaines de leur famille aujourd'hui, Madame Kelly. Les M23 est un instrument de jauge du Rwanda et des grandes puissances. Et donc, lui ouvrir une porte, c'est commettre une erreur grave au niveau du gouvernement de la République. Et donc, je considère que depuis très longtemps, les M23 ont toujours infiltré ou intégré les institutions de la République. Le professeur Jacques Joly venait de le dire d'ailleurs. Ils sont députés en province, ils sont députés à l'Assemblée nationale, ils sont également dans les institutions sécuritaires. Donc bref, je soutiens. Donc je suis de l'avis de l'Assemblée nationale qui refuse d'intégrer les M23 ou les responsables du M23 dans les institutions de la République.
Même si ces derniers acceptaient de déposer des armes, comme l'a demandé le gouvernement congolais, avant toute participation au processus de Nairobi?
Non, je pense que le M23 ne peut pas déposer les armes. Hein. Ça, je vous l'ai dit déjà. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est les rapports de force. entre les FARDC, les gouvernements de la République et le M23. Et donc, dans toute guerre, tout affrontement, il n'y a que trois possibilités. Ou la rébellion l'emporte sur le gouvernement, l'ordre change, ou c'est le gouvernement qui mate la rébellion, à ce moment-là, le statu quo est resté, ou encore, il n'y a ni 24 ni 25 à ce moment-là, les accords ou l'accord que les autres demandent peut être possible. Mais pour l'instant, là je voudrais le dire, je crois, j'ai comme l'impression, parce que les M23 ont pris les armes, ils avancent. Mais pourquoi ils peuvent s'arrêter, demander encore tant de la main au gouvernement? Parce que ce sont des dernières frappes aériennes qui pratiquement remettent la pendule à l'heure et conduisent les M23, n'est-ce pas, à tendre la main au gouvernement de la République pour négocier. Et là, je crois qu'il ne faut pas céder, sinon ce serait une erreur grave au niveau du gouvernement de la République, au niveau de l'Assemblée nationale.
Professeur Casimir Ngoumbi, vous insistez plus sur les M23, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres groupes armés hein, qui contrôlent certaines localités dans la partie est de la RDC. Pensez-vous que ceux-là ne sont pas concernés par cette recommandation de l'Assemblée nationale?
Logiquement, tous les groupes armés doivent être concernés. Parce que lorsque le gouvernement augmente sa capacité du service, le gouvernement est capable d'imposer sa volonté. Il n'y a que cela. Lorsque le gouvernement augmente sa capacité du service, les FARDC augmentent les capacités du service, je crois que les M23 ou les autres groupes armés qui soient nationaux ou étrangers, qui soient locaux ou étrangers, je crois qu'ils ne peuvent pas se le permettre ou se le prévaloir. Je crois que le gouvernement de la République peut imposer sa position dans ce cas-là.
Le prof Bob Kabamba l'a dit tout à l'heure, 126 groupes armés à peu près qu'on a en RDC. Puisque la solution militaire, l'Assemblée nationale n'en veut pas, n'y a-t-il pas de négociations, pas d'intégration de ces gens-là dans l'armée? Pensez-vous que le gouvernement est en mesure de prendre en charge toutes ces personnes qui vont peut-être accepter de réintégrer la vie civile?
Malheureusement, Madame Kelly, écoutez, on le voit avec le PDDRCS. Je ne sais pas pourquoi ça traîne. Hein? Le gouvernement a donné le ton, Tommy Tambo a donné le ton, et d'ailleurs, dans beaucoup de provinces déjà, les responsables du PDDRCS sont déjà nommés. Mais on ne sait pas pourquoi ça traîne. J'ai comme l'impression qu'à ce niveau-là, ça cloche. Et donc, il faut donc que le gouvernement le plus mette à la disposition du PDDRCS les moyens nécessaires pour que ce que le professeur Bob Kabamba venait de dire ici soit exécuté, c'est-à-dire l'intégration civile pour les groupes armés qui acceptent de ne pas se rendre. Mais pour ceux qui ne veulent pas se rendre, moi je crois qu'il faut frapper et augmenter la capacité du service des forces armées.
Merci professeur Casimir Ngoumbi. On va prendre quelques réactions des auditeurs qui sont très nombreux appelés sur notre standard. Professeur Jacques Ndjoli, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
C'est Jean de Benel depuis le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. La mesure prise par l'Assemblée nationale est salutaire pour mon pays. Car il y a des décennies que nous l'avions fait et la paix n'est plus toujours au rendez-vous dans mon Congo. Si nous voulons la paix, ça ne sera pas par ces pratiques, mixage et brassage qui a déjà montré ses limites, mais par la bonne formation et le meilleur équipement de nos troupes de défense et de sécurité. Je vous remercie.
Réaction, professeur Jacques Joly.
Je crois que le frère du Katanga dit ce que nous disons. Madame, lorsque on fait une analyse profonde de l'état des lieux de nos forces et surtout de ces opérations de brassage ou même de mixage où M. Laurent Kunda et ses hommes ont insisté pour intégrer l'armée mais en gardant leur milieu d'origine. Comment peut-on imaginer une armée comme ça? Donc, les opérations de brassage et de mixage n'ont pas suivi les standards internationaux sur cette matière-là. Parce que ce soit au Libéria ou en Sierra Leone, lorsqu'on a lancé ces processus, eh bien, on a évité d'intégrer dans l'armée des éléments qui vont faire de l'armée nationale une armée tiraillée entre plusieurs forces centrifuges et antinomiques. Et c'est ça un des vrais problèmes de notre armée. Donc, les Moutéboussi, les Kunda, les Tangada et d'autres qui se cachent aujourd'hui dans ces corps, eh bien, ils ont profité de ces processus de brassage qui est un échec. L'émissage a été un échec. Et on ne peut pas reprendre un échec. Donc, après plus de 20 ans de tentatives de création d'une armée bariolée, eh bien, il faut qu'on arrête, qu'on recrute maintenant des jeunes gens comme on le fait maintenant, que celui qui veut aller devenir officier, il va aller à l'école de formation des officiers. Celui qui veut devenir colonel, il doit avoir appris dans une école de commandement ou une école de guerre comment on dirige un bataillon ou une brigade. Donc, il n'y a pas, on ne peut pas faire une armée avec ce qu'on appelle le tchanga-tchanga-là, ça ne peut pas marcher. Et je voudrais dire, en ce qui concerne le processus DDR, j'ai été plusieurs reprises dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. Sur les 140 groupes armés, plus ou moins 135 attendent ces processus. Ils veulent, avec famille, réintégrer leur communauté, mais avec, bien sûr, comme a dit le professeur Kabamba, un schéma qui leur donne de garantie de s'intégrer réellement dans la vie civile. Et je crois que ceux qui veulent servir encore l'armée ou la nation, il y a un service national qui, n'est-ce pas, avec le général Kasongo, peut leur apprendre à faire le champ et à produire pour la nation. Mais l'armée doit rester un corps d'élite où on apprend à protéger sa nation et qu'on n'y entre pas par embuscade pour être des agents de la cinquième colonne du Rwanda et de l'Ouganda qui vous dit à tout moment qu'il faut quitter l'armée, à tout moment. Ces gens-là, les Tangada, ils ont eu des grades. Les Kunda, ils ont eu des grades, ils ont eu des brigades. Mais ils ne sont jamais satisfaits. Et je crois que dans les négociations qui vont venir, les autres pays qui veulent que le Congo soit en paix doivent nous aider à ne pas intégrer ces agents de la cinquième colonne dans notre armée.
Mais la crainte, très brièvement, professeur Jacques Njoli, la crainte pour ceux qui vont réintégrer la vie civile, est-ce que le gouvernement a les moyens de les prendre en charge? On connaît ce qui est arrivé avec les DDRR. Il y a des gens qui ont déposé les armes, qui ont accepté la réinsertion civile, mais après, il n'y avait pas de moyens pour les prendre en charge. Ça posait problème et ça poussait même certains à rentrer en brousse et reprendre les armes.
Mais je crois que les leçons ont été apprises. L'actuel programme, ce n'est plus le DDR, démobilisation, désarmement ou rapatriement. Mais sachez même que dans ces rapatriements, ceux qui ont été rapatriés au Rwanda, par exemple, le Rwanda les a recyclés pour remettre des faux FDLR pour venir continuer les pillages et l'insécurité dans notre pays. Donc, le nouveau programme tel que décliné par la nouvelle équipe de M. Toumi, ça s'appelle PNDDRC, donc Réinsertion et Relèvement Communautaire. Eh bien, nous espérons que...
Qui peine à décoller, faute de moyens.
Voilà. C'est dommage, mais l'armée n'est pas non plus une poubelle, comme dirait le général... Mayele, armée Kundete.
Professeur Bob Kabamba, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Je réponds par le nom de Mayele Jules, porte-parole national des forums des nationalistes dans la ville de Bukavu. La résolution prise par l'Assemblée nationale se justifie dans la mesure où, depuis la nuit du temps, il y a toujours eu brassage des messages des rebelles au sein de l'armée et services de sécurité. Mais cela est à la base de l'infiltration dans l'armée et les services de sécurité de la RDC. En outre, cela était devenu un encouragement aux rebelles et aux politiciens désirés de prendre le pouvoir. Il fallait prendre les armes et créer les mouvements rebelles pour chercher le pouvoir des postes politiques après négociation. C'est pourquoi il y a toujours un cycle perpétuel de mouvements rebelles et de guerres interminables dans notre pays. Il faut maintenant que les parlements votent les lois qui favorisent l'épanouissement d'hommes en uniforme et qui améliorent les conditions de vie, qui favorisent aussi l'intégration de la jeunesse dans l'armée.
Bref commentaire, professeur Bob Kabamba.
Oui, l'auditeur Jules de Bukavu donc fait en tout cas un résumé de la problématique et il ajoute un élément important. C'est que effectivement, dans beaucoup de rapports, on a bien vu que certains groupes armés ont des liens avec des politiques. Alors, quand des groupes armés ont des liens avec des politiques, dans un contexte de discussion, généralement, ça ne sera pas ces groupes armés de terrain qui seront concernés, mais ce sera plutôt les politiciens qui espèrent effectivement participer à ces discussions, ainsi pouvoir bénéficier des avantages l'un ou l'autre, un poste gouvernemental, etc. Ça, c'est une réalité, malheureusement, qui a toujours été une réalité politique en RDC depuis quand même plusieurs années, et qu'il est impératif que toute cette tendance commence à prendre fin. Alors, commence à prendre fin pour qu'il puisse plus que les groupes armés deviennent une espèce de moyen de pouvoir atteindre des objectifs politiques. Et si cette dynamique n'est pas cassée, nous allons continuer à tourner en rond. Oui, on va avoir des processus de Nairobi, et une fois qu'ils vont quitter Nairobi, ils vont revenir dans la brousse, et on va encore à nouveau recommencer la même dynamique, et que chaque fois, ça va tourner toujours en rond avec les mêmes problématiques, et avec comme conséquence, c'est toujours les populations civiles qui continueront à être victimes. D'avis véritablement qu'il faut que le gouvernement mette le paquet sur la question civile, arrive à convaincre ces groupes armés que ce n'est que par ce processus qu'il y a moyen de pouvoir se réinsérer. Et la question de l'armée reste une question de l'armée professionnelle, c'est-à-dire qu'on doit procéder par la construction d'une armée et pas par le mixage, et pas par le rassemblement de tel groupe pour espérer faire une armée. On a la preuve sur le terrain à chaque fois, très souvent lorsqu'il y a des offensives militaires, que ce soit même les Mai Mai, que ce soit les ADF, et à chaque fois, on a toujours des problèmes avec l'armée congolaise, puisque l'armée congolaise est faite depuis des années par cette espèce de bricolage et de conglomérat qu'on a essayé de mettre ensemble et qu'on a du mal à pouvoir avoir une unité claire de commandement.
Professeur Casimir Ngoubi, il y a cette autre réaction de Bukavu qui nous vient de Fikiri Tchomba, qui pense que l'interdiction de l'Assemblée nationale au gouvernement d'amorcer toute négociation avec les forces négatives en vue de procéder à leur intégration, brassage ou mixage, est une bonne chose si et seulement si la donne change sur terrain, mais tant que les forces dites négatives auront de l'ascendance absolue sur nos forces de défense, la proposition de l'Assemblée restera chapelée des bonnes intentions. Et pour que la RDC puisse avoir une armée républicaine et bien structurée, on doit travailler de front en comble à la restructuration de nos forces de défense, mais aussi on doit mettre beaucoup de moyens pour un bon encadrement de nos vaillants militaires. Réaction.
Affirmative, Madame Kelly, je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant. J'ai comme l'impression que la difficulté demeure au niveau où les agendas sont nombreux dans la guerre de la RDC. Les acteurs qui interviennent aussi dans la guerre ont chacun ses ambitions et ses finalités. Je voudrais dire tout simplement en terminant que l'un des points finalement des ambitions d'avoir quelle proportion de ses membres à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement et dans les services de sécurité. Je considère que trop c'est trop, il faut donc augmenter la capacité dissuasive, n'est-ce pas, pour restaurer la paix par la force. J'ai l'impression que c'est de cette manière-là que nous pouvons l'emporter sur le M23 et sur toutes les autres rébellions ou les autres groupes armés.
Pour conclure, professeur, cette résolution de l'Assemblée nationale pourrait-elle aider la RDC à avoir une armée républicaine et bien structurée?
Affirmatif. La résolution de l'Assemblée nationale peut aider, mais à condition qu'on augmente la capacité dissuasive des FRDC et que les frappes sur Rutshuru et ailleurs continuent. Moi, je crois qu'il faut dissuader. Il faut augmenter la capacité dissuasive de la RDC pour nous permettre quand même de nous reposer. Trop, c'est trop. Et c'est chaque jour que nos frères et sœurs meurent à l'est de la RDC. Le nombre de morts à l'est de la RDC ont dépassé à 3 fois plus les massacres du Rwanda dans le 94. Et la communauté internationale reste insensible par rapport à la question et ça nous étonne tous. Moi, j'ai comme l'impression qu'il faut préparer la résistance contre toutes ces agressions et augmenter la force
Merci, professeur Casimir Ngoubi, professeur Jacques Joly. Il y a cet auditeur de Kananga, François, qui pense qu'il faudra une loi interdisant l'adhésion au FRDC à tous ceux qui ont un passé des rebelles, quelle que soit la forme. Cela pourrait dissuader ceux qui ont trouvé cette voie comme raccourci pour avoir des grades.
Mais c'est la voie de soi. Vous savez, madame, quand vous allez dans un pays comme les États-Unis, pour intégrer la police, on doit vous faire des examens pour trouver si vous avez dans votre vue pris du chanvre une seule fois ou du cannabis. Donc quand vous avez pris du cannabis dans la police de Connecticut, vous ne pouvez jamais faire partie de la police. Alors, lorsque il faut, dans la loi sur le terrorisme qu'il faut prendre en compte, ou même sur la loi sur les forces armées, exclure tous ceux qui ont pris les armes contre la République, tous ceux qui ont participé dans les armées étrangères. Nous avons les gens qui étaient dans l'armée patriotique rwandaise, avec des grades de caporaux ou autres, qui sont devenus des généraux, et qui nous narguent à tout moment. Donc ceux qui ont servi dans les armées étrangères, ceux qui ont été les agents de puissance étrangère, ceux qui ont pris les armes pour changer le pouvoir, à partir du moment où nous avons dit qu'on ne peut plus accéder au pouvoir dans notre pays qui n'est pas de voie démocratique, c'est qu'ils prennent les armes pour entrer dans la majorité présidentielle, comme ce fut le cas du CNDP, qui a été intégré dans la majorité, qui a eu des PDG, mais ils n'ont jamais cessé. Parce que dans l'ADN du gouvernement rwandais, dans la stratégie du gouvernement rwandais, il faut disposer des supplétifs qui vont à tout moment narguer les forces armées, narguer la République. Et à partir de ce moment-là, nous n'avons pas le temps de construire notre pays, nous n'avons pas le temps de construire nos routes, parce que nous devons faire face à des aventuriers qui sont utilisés par le Rwanda ou l'Ouganda pour nous empêcher. Et ça, il faudra qu'on mette fin, et surtout qu'ils n'aient pas leur place dans les services de renseignement,
merci,
dans les services de sécurité et surtout dans l'armée.
Merci, professeur Jacques Joly. Professeur Bob Kabamba, que faire pour avoir une armée républicaine? Aujourd'hui, on dénonce le fait que l'armée de la RDC soit infiltrée, qu'il y ait beaucoup d'infiltrés au sein de l'armée. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir une armée républicaine et structurée?
Merci pour la question. Donc, premièrement, il faut d'abord reconstruire d'abord l'État congolais, que l'État congolais puisse arriver à pouvoir répondre effectivement aux besoins de sa population, c'est-à-dire exercer ses fonctions régaliennes, et à partir des fonctions régaliennes, reconstruire donc une nouvelle armée. On l'a dit tout à l'heure que par rapport à l'armée actuelle, dans l'état dans lequel elle se trouve, l'origine de son état, il faut avouer que au moment, dans les années 2000, 2003, 2004, 2005, tous les efforts avaient été mis, non pas pour la construction d'une véritable armée républicaine avec les différentes réformes qui n'ont pas abouti, faute non seulement des volontés politiques, mais aussi faute de pouvoir véritablement y mettre les moyens pour la réformer. On a axé beaucoup plus sur les élections plutôt que d'axer sur la formation d'une véritable armée. Je pense qu'aujourd'hui, on peut véritablement essayer d'inverser la tendance, de pouvoir non seulement axer sur la question de la pérennisation de la démocratie au Congo, mais aussi sur la construction d'une armée, non pas des armées de supplétifs, mais véritablement armée telle que on le voit dans d'autres pays, que ce soit le Sénégal, l'Afrique du Sud, que s'en sais-je, où on a un parcours de combattants, on a un parcours de militaires, et qu'un général, ce n'est pas un ancien maï-maï, un général, c'est quelqu'un qui a été formé, qui a été à l'université, et qui a des compétences pour pouvoir mener une guerre, etc., etc. Ce n'est que par ce moyen-là qu'on peut arriver véritablement à avoir une armée républicaine au Congo.
Merci, professeur Bob Kabamba. Dialogue en congolais, c'est fini. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. Alain Goy était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioukapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.